des archives. Mathieu Garrigou-Lagrange. Get up, get up, get up.
La France dans l'œil de Marcel Pagnol. Épisode 5, au centre des disputes. Le 27 mars 1947, à 14h, un nombre inhabituel de personnes attendent d'entrer Quai Conti pour la réception sous la coupole du cinéaste et écrivain Marcel Pagnol. Il faut dire qu'au lieu des 20 invités réglementaires, le héros du jour a fait une demande pour en recevoir 200. Ce seront finalement 60 de ses amis qui pourront s'asseoir ce jour-là pour écouter son discours. Nous sommes allés voir s'il existait un enregistrement de ce discours et la réponse est oui. On l'écoute.
Marcel Pagnol est reçu sous la coupole. Affluence des grands jours à l'Académie française où sunlight et projecteurs éclairent d'une lumière dorée les boiseries de style empire et les fameuses travées de velours vert. Madame Marcel Pagnol, Jacqueline Bouvier, très star de cinéma, fait une entrée assez remarquée, bientôt suivie de Madame Maurice Donnet, Madame André Mauroy, Hélène Perdrière et tout le public habituel des grandes festivités littéraires de l'Institut. À 3 heures précises, roulement de tambour traditionnel. Marcel Pagnol pénètre sous la coupole entre ses deux parrains, André Chaumex et Pasteur Valery Radeau. Au bureau, Georges Lecomte et le baron Sellière encadrent Jérôme Tarot qui ouvre la séance.
La séance est ouverte. La parole est à M. Marcel Pagnol pour la lecture de son remerciement.
Marcel Pagnol, assis au pied de la statue de Bossuet, se lève et s'apprête à lire son discours.
Messieurs, le règlement et surtout la reconnaissance m'imposent de commencer ce discours par un profond et sincère remerciement. Mais ma présence parmi vous me paraît si insolite que je vous dois une explication. Non pas de votre choix dont vous êtes seul maître, mais des circonstances qui m'ont amené à solliciter vos suffrages. Certes, je ne vous dirai pas mon grand étonnement de m'entendre parler sous cette coupole, je ne feindrai pas la surprise. Je ne dirai pas comment est-il possible que vous ayez pensé à moi, je sais bien que j'y ai pensé le premier. Et je me souviens d'avoir écrit à l'adresse de Monsieur le secrétaire perpétuel une lettre fort explicite par laquelle je me proposais délibérément à votre choix. C'est cette décision au moins prématurée que je vous demande la permission de justifier. Nous étions au lendemain de la capitulation de l'Allemagne, c'est-à-dire à la fin de nos véritables malheurs. Pendant les 5 années que dura la guerre, l'Académie avait décidé de ne point réparer ses pertes. Parce qu'elle craignait l'ingérence des puissants du jour, elle refusa de faire un choix qui n'eût pas été entièrement libre. Cependant, la Providence ne voulut point lui tenir compte de la dignité de cette attitude. En 5 ans, 15 membres de la compagnie partirent pour un monde que l'on dit meilleur, mais qui à cette époque ne pouvait être pire. Lorsque Monsieur le secrétaire perpétuel ouvrit enfin les portes, il vit aligner tout au long des murs de la cour d'honneur une 100aine de personnes qui applaudirent sa venue sans rien perdre de leur dignité et s'avancèrent en rang serré. Effrayé par le nombre, il referma les grilles et convoqua les plus sages de l'Académie pour en délibérer. Je passais par hasard, messieurs, je vis cette longue file et je crus de loin que j'approchais de l'un de ces théâtres d'ombre que l'on appelait autrefois des cinématographes, que nous appelons cinéma, que nos enfants appellent ciné et que nos petits-enfants appelleront Dieu sait comment si l'Académie n'y met bon ordre. En quelques pas, je fus détrompé car je reconnus dans cette queue un bon nombre de personnes d'un grand mérite, généralement trop occupées par leurs rêves intérieurs pour en acheter de tout près et qui ne vaudraient pas les leurs. D'un air faussement indifférent, je fis 2 ou 3 allées et venues, saluant au passage ceux que j'avais l'honneur de connaître, scrutant à la dérobée les visages qui m'étaient nouveaux, et j'essayais d'estimer le poids du bagage littéraire que chacun d'eux portait sous son bras. J'allais partir découragé, lorsqu'une voix me dit à l'oreille, il n'y a là aucun auteur dramatique. Je fis une nouvelle revue de l'imposante troupe. Je vis quelques écrivains qui avaient obtenu au théâtre de brillantes réussites, mais dont l'œuvre littéraire était le mérite principal. Je songeais ensuite que dans le sein de l'Académie elle-même, il ne restait aucun auteur dont la gloire théâtrale ne fût dépassée par la gloire littéraire. À ce moment, la voix me dit encore, l'Académie a toujours compté dans ses rangs au moins 4 hommes de théâtre. Elle en a reçu jusqu'à 7. Cette remarque me fit réfléchir.
Hélène Rivière-Lévin, vous êtes agrégée de lettres classiques, spécialiste de Pagnol et doctorante à l'université Côte d'Azur. Que nous dit ce document ?
Alors, il nous dit à la fois qu'il y a une mise en scène et une dramatisation de la cérémonie en elle-même, en fait, puisque c'était la première qui était filmée et diffusée, première cérémonie d'élection à l'Académie française. Et à l'intérieur même du discours de Pagnol, on a cette mise en récit, cette dramatisation de la candidature de Pagnol lui-même, qui, alors, il a toujours un petit peu cette attitude, je passais par là, bon, j'ai écrit une lettre, mais c'est pas moi qui l'ai postée, oh, j'ai écrit ça, mais bon, c'est pas moi qui l'ai publiée. Donc, un peu cette distance de fausse modestie, un peu amusée et amusante.
Est-ce qu'il se notabilise quand même un petit peu ? Est-ce que c'est un désir chez lui, en devenant académicien, de se notabiliser ?
C'est très possible, parce qu'en fait, il y a quand même toujours cette quête... de respectabilité, si je puis dire, ou cette volonté de reconnaissance qui le poursuit toute sa carrière.
Noël Herpe, vous êtes écrivain, cinéaste et universitaire et vous nous aidez à comprendre mieux ces archives en les commentant. Pourquoi, selon vous, Pagnol voulait-il entrer à l'Académie ? Qu'est-ce qu'il cherchait au fond dans cette institution ?
Je pense que Pagnol était très content d'être de l'Académie. Entrer à ce moment-là, c'était peut-être une manière de faire oublier certaines des ambiguïtés de sa position pendant l'occupation. Ça lui permettait de réasseoir sa position et surtout d'asseoir sa position de cinéaste-écrivain, car il est finalement le premier cinéaste à entrer à l'Académie. Alors, il n'est pas reçu comme un cinéaste, comme le sera plus tard René Clair. Il est reçu comme un écrivain, mais enfin, tout le monde est quand même bien conscient que c'est un cinéaste qu'on honore. Et d'ailleurs, les caméras des actualités enregistrent cet épisode et on passe la réception de Pagnol en avant-première des films projetés dans les salles. Donc c'est un événement à la fois parisien et cinématographique. Et ça ouvre une seconde période de sa carrière aussi. J'ai tendance à penser que c'est à partir du moment où il a été à l'Académie qu'il s'est remis à écrire.
En réponse à ce discours de Pagnol de réception à l'Académie française, Jérôme Tarot, un écrivain à la réputation par ailleurs sulfureuse de racisme et d'antisémitisme, le reçoit sous la coupole. Il souligne d'emblée qu'il est un écrivain populaire et potentiellement méprisé par l'élite. On écoute un extrait de ce document d'archives.
Monsieur, je suis très heureux de vous accueillir parmi nous. D'abord parce que vous avez beaucoup de talent. Ensuite, parce que vous êtes un homme heureux. Un homme heureux, ce phénomène extraordinaire, qui n'est peut-être que l'effet d'une harmonie entre les dons que nous avons reçus de la nature et la manière dont nous savons les employer et en tirer parti. Cette harmonie, vous l'avez réalisée avec un bonheur tel qu'il semblait vous fermer à tout jamais les portes de notre compagnie. Le succès, en effet, et un succès aussi universel que le vôtre emporte souvent avec lui dans l'opinion, par quelques mauvais chocs en retour, je ne sais quel discrédit, quel doute sur la qualité du talent trop chanceux. Les délicats, les raffinés, pourquoi ne pas y joindre aussi les snobs, sont naturellement portés à dire, après tout, est-ce aussi bien que cela ? Il faut prendre une bonne fois son parti, que beaucoup de gens bouderont toujours une œuvre d'une clarté et d'une simplicité trop parfaites. Le public lui-même est tenté d'être ingrat et de se demander si ce qu'il aime et admire si vivement et naïvement mérite vraiment ses supports.
Ce qui est sous-entendu dans le discours de Tarot, c'est qu'il existe une autre littérature, un autre cinéma que celui de Pagnol qui parle peut-être moins à l'émotion et davantage à la raison. Et que cet autre art, moins populaire sans doute, voire un peu snob, serait aussi moins bienveillant à l'égard du nouvel académicien. Hélène Rivière-Lévin, qu'en pensez-vous ?
Tout n'est pas faux, en effet, dans cette archive. Et puis, il y a cette opposition entre le succès populaire et le succès critique ou le succès d'estime. Et il est vrai que les œuvres de Pagnol ont toujours eu un grand succès populaire. De fait, quand il y a un grand succès populaire, parfois, on a tendance à se dire que c'est peut-être un peu trop simpliste ou pas si bien que ça. En revanche, on ne peut pas complètement opposer Pagnol avec ses contemporains cinéastes ou artistes un peu mieux considérés dans les milieux intellectuels ou universitaires, parce que de fait, ils échangeaient en fait. Ils étaient, voilà, il y a des correspondances avec Cocteau, avec des artistes qui sembleraient plus canoniques au niveau universitaire ou intellectuel, et en fait, chacun respectait le travail de l'autre, voire même échangeait des idées. Donc il n'y a pas une opposition aussi stricte qu'on puisse penser entre ces artistes.
Noël Herpe, qu'en pensez-vous ?
Jérôme Tarot, là, pointe un peu le revers de la médaille pour Pagnol. Pagnol a été comblé de gloire, d'honneur. Il a eu des topazes et plus tard avec Marius et grâce au cinéma ensuite une reconnaissance internationale qu'on a peine à imaginer aujourd'hui. Mais évidemment, le contre-coup de ça, c'est qu'il a suscité énormément de jalousie. Il a été détesté. Alors évidemment, méprisé certainement par les littérateurs, mais également méprisé par les cinéphiles professionnels. Quand Jérôme Tarot prononce ce discours, les critiques de cinéma considèrent Pagnol comme un faiseur qui ne se soucie que de faire des gros sous. Et il faudra vraiment attendre la fin des années 50 pour que le cinéma de Pagnol soit reconnu à sa juste valeur. Personne, à ce moment-là, à part peut-être la femme du boulanger, ne considérait le cinéma de Pagnol comme important. Pagnol, c'est vraiment quelqu'un qui a été sauvé de l'oubli, à la fois par son génie d'écrivain, ce côté extraordinairement naturel, libre et direct de son écriture, qui fait que ça a traversé le temps, mais en même temps, le cinéma. S'il n'y avait pas eu le cinéma, je ne suis pas sûr qu'on serait là aujourd'hui pour parler de Pagnol.
Et pour Pagnol, écrire et faire du cinéma, c'est aussi laisser entrer la vie dans les films, ne pas faire de chichi. En voici une preuve, dénichée dans la salle des archives. Pagnol y répond à Claude Gonteur, qui l'interviewait en janvier 1973.
La première question est très simple, je pense qu'on a déjà dû vous la poser, mais il est difficile de ne pas vous la poser. Vous avez eu toujours beaucoup de polémiques au sujet du cinéma, du théâtre filmé, etc. On ressort quand même presque toute votre œuvre cinématographique. Est-ce que vous avez le sentiment qu'on vous rend justice ? Est-ce que pour vous c'est un peu une revanche ? Ou enfin, je ne sais pas, voyez
oui.
Dans quelle direction ?
Si vous avez lu la cinématurgie de Paris, vous avez vu sur quel ton on me parlait.
Oui, d'insulte. Oui.
Simplement parce que je disais, il faut que le film parlant parle. Et au commencement était le verbe. Pour moi, les images sont l'illustration du texte. Mais l'œuvre dramatique, elle est dans le texte. Les images, il faut qu'elles mettent en valeur l'œuvre dramatique. Mais en elle-même, genre j'avais dit même un jour dans un moment de colère, j'avais dit, la bonne photographie est autorisée. pourvu que ça ne dérange pas le texte, pourvu. Vous savez, autrefois, les types du muet, tout à coup, ils faisaient un gros plan d'une fleur. On ne sait pas pourquoi, parce qu'il était très joli. Et ça coupait tout le mouvement. Ils attachaient beaucoup d'importance à la qualité de l'image et je crois que le public s'en fout complètement. Et puis ces belles images gênaient beaucoup les acteurs. Parce que l'opérateur était très difficile, il faisait son éclairage et disait on peut aller que jusque-là. Et alors on faisait des plans de 60 secondes. C'est-à-dire que moi j'ai toujours fait tourner mes hommes et qu'ils me disaient jusqu'où on va. Je disais on va jusqu'à ce que vous vous arrêtiez. De toute façon, s'il y a des passages mauvais, ça fait rien. Il faut laisser le mouvement de la scène. Un comédien qu'on fait arrêter tous les trois pas ne peut pas jouer la comédie.
Vous allez jusqu'à la bobine.
Ah oui, c'est ça. Dans Fanny, il y a une bobine entière.
Et je veux dire, d'ailleurs, ça va, si vous voulez, ça confirme vos théories. C'est que, je pense, c'est un peu, c'est de l'amour des acteurs qui vous aide ça. Ça venait du théâtre, enfin, où on filme une scène en entière. Et vous arrivez à une notion essentiellement cinématographique, quel plan séquence. Et maintenant, on se gargarise du plan séquence quand quelqu'un fait un plan de 8 minutes, alors que finalement, vous l'avez fait dès le départ, ou vous cherchiez à le faire.
J'ai fait des prises de vue de 11 minutes. Et avec une dizaine de plans, mais sans couper,
oui.
Avec des rails simplement. Vous savez, en général, je mettais quatre rails en croix, et je mettais deux appareils, je tournais une fois comme ça et comme ça, et puis une fois comme ça et comme ça, en m'approchant des acteurs, en prenant le gros plan dans le mouvement, n'est-ce pas ?
Mais vous ne tournez qu'avec une caméra, je crois, parce que, par exemple, lui, Renoir, faisait un peu ça, mais il mettait deux ou trois caméras.
Ah, moi, j'en mets souvent deux.
Oui, aussi,
j'en mettais souvent deux. Quand on a tourné un sermon de Wilbert, 28 minutes.
Oui.
J'avais mis deux caméras, on a fait trois prises de vue, et il a fait ça entre 10h et midi.
Oui.
Le sermon de Wilbert qui est dans Ballon des Sources, oui. Où il est admirable d'ailleurs, oui. Wilbert, il est vraiment très bien.
Et voilà une archive où on se rend compte que Pagnol n'était pas si peu avant-gardiste que cela, au moins en matière formelle. C'est une archive qui nous dit cela, Noël Herpin.
Tout à fait, d'où le goût de tenant de ce qu'on appelle un cinéma moderne, comme Orson Welles, des gens aussi différents qu'Orson Welles et André Bazin, pour Marcel Pagnol. Orson Welles adorait La femme du boulanger, et Marcel Pagnol était très sensible à ce réalisme du plan pagnolesque. Mais le plan pagnolesque est en effet issu de la parole. C'est tout à fait juste ce qui dit l'image n'a pas à préexister à la parole, mais il faut pas non plus être trop victime du discours qu'il a là-dessus, c'est-à-dire qu'il a tendance à dire moi, ma technique, elle est au service de la parole, et c'est vrai que je pense qu'il s'y fait des plans séquences aussi longs, c'est d'abord pour servir la parole de ses comédiens et la respiration intime de ses comédiens, mais enfin, il y a quand même de l'image chez Pagnol, hein. C'est pas de la belle image, c'est pas de la jolie image, c'est pas de l'image léchée, mais il y a une image vraie. Il sait faire surgir l'image au moment le plus opportun, au moment où elle va déchirer la parole et être d'autant plus bouleversante.
Mais il ne fallait pas non plus trop se regarder filmer. Ça, c'est quelque chose qu'il n'aimait pas, Marcel Pagnol. Et certains cinéastes importants l'ont senti, cela. On pourrait parler de Vittorio De Sica, qui a vu en Angèle un film d'avant-garde et en Pagnol, le père du néo-réalisme. Alors, il faut que vous nous expliquiez un petit peu tout ça. Qu'est-ce que c'est que ce néo-réalisme et en quoi, au fond, Pagnol pourrait-il en être le père, selon Vittorio De Sica?
Oui, je crois que Vittorio De Sica l'a très bien vu, mais ça a été aussi redit par les ténors de la future Nouvelle Vague. Le néo-réalisme apparaît en Italie dans les années 40, enfin après la Seconde Guerre mondiale. C'est un mouvement de libération du cinéma. On sort des studios pour aller dans la rue, pour filmer les petites gens, pour filmer le peuple. Donc c'est un cinéma à la fois politique, social, humaniste, et qui permet de complètement bousculer les conventions du cinéma de téléphone blanc qui avait marqué la période mussolinienne. En France, le néo-réalisme, il arrive avec 10 ans d'avance, avec à la fois Tony de Jean Renoir et surtout Angèle de Pagnol, qui est tournée en 1934 et où déjà Pagnol sort des studios, va tourner en pleine Provence, en pleine garrigue, dans des paysages écrasés de soleil, dans des fermes rustiques, dans des paysages désertiques. Et il y a à la fois un côté western et en effet un côté néo-réaliste avant la lettre. Mais c'est dû aussi au fait qu'il fait appel à toute une troupe de comédiens qui sont parfois des non-professionnels, qui sont parfois des gens comme ça un peu maladroits. Alors moi, j'aime pas trop mettre des étiquettes. Je dirais que Pagnol est Pagnol et c'est largement suffisant. Mais en effet, il a inauguré une spontanéité, une désacralisation de la technique qui ont 10 ans d'avance par rapport à ce qui va se faire dans le cinéma d'après-guerre.
Pagnol a donc été défendu par de nombreux cinéastes, parmi eux, certains vont jusqu'à la nouvelle vague, et pas des moindres, Godard par exemple. On l'entend dans ce document retrouvé tout au fond de la salle des archives.
Quand on voit ce qu'a fait Pagnol, par exemple, c'est un type qui a beaucoup apporté au cinéma, et qui a été vomi par tout l'intelligentsia de l'époque du cinéma, et aujourd'hui on s'aperçoit que c'est lui qui a raison. Tout le néo-réalisme italien, et même le cinéma vérité, à long terme, est sorti de Pagnol, qui lui était un pur auto-dramatique, mais qui était un admirable dialoguiste et raconteur d'histoires, aussi bien que Ramu ou que Giono. Et ce qu'il a apporté au cinéma était juste. Ce qui était mauvais, c'est si Jean de Lettras veut faire comme du Pagnol. Mais Pagnol, non. Et ses films aujourd'hui, même comme ceux de Guitry, tiennent à cause de ça, parce qu'ils sont simples et corrects. Ils ne se posaient pas de problème.
Ce que dit Godard, c'est que il y a de mauvaises imitations du cinéma de Pagnol, ce qui signifie qu'en fait, il y a quand même des choses à imiter, et des choses à aller chercher chez lui.
C'est pour ça, je m'excuse d'être un peu méchant, mais c'est pour ça que je suis très sceptique devant toute la vogue d'adaptation de Pagnol après Pagnol, c'est-à-dire tous les films qui ont été réalisés après sa mort, d'après ses livres, ou d'après ses pièces, ou même d'après ses films, sans compter les pièces qui ont été faites d'après ses films, comme La femme du boulanger, tout ça me paraît totalement absurde, parce que Pagnol, c'est pas simplement un univers, des personnages, une écriture, c'est aussi une mise en scène. Si vous enlevez la mise en scène, alors il reste évidemment le texte, mais ça peut pas marcher, parce que tout ça est lié. Le rapport aux acteurs, l'organisation de l'espace, le fait de choisir tel ou tel comédien, de créer telle atmosphère, est lié à son travail d'écrivain. C'est absolument inséparable. Et pour moi, faire du cinéma à partir des textes de Pagnol sans... C'est pas que je suis dans la nostalgie en disant « Ah là là, rendez-nous Rému et Fernandel », c'est pas le problème. Mais je pense que intrinsèquement, l'écriture de Pagnol débouche sur une mise en scène. Elle appelle une mise en scène.
Parmi les soutiens à Pagnol, on pourrait aussi citer celui de Steven Spielberg, qui a dit un jour « J'ai vu La femme du boulanger, projetée en VO à New York. Ça a été un choc. Ce film a la puissance d'un film de Capra, de John Ford et de Truffaut réunis. Pagnol devait être un homme exceptionnel. » Voilà qui est dit, comme quoi Les Dents de la Mer, finalement, c'est peut-être pas si éloigné qu'on le pensait de La femme du boulanger.
Je suis assez d'accord, en fait, parce que dans les deux cas, il y a une sorte de peur sur la ville, on pourrait dire, de peur sur la cité, parce qu'il y a un danger. Dans un cas, c'est le requin, dans l'autre, c'est l'absence de pain. Et puis, il y a ce côté, dans Les Dents de la Mer, comme dans La femme du boulanger, des petites gens, des gens simples, comme vous et moi, qui se regroupent face à l'adversité. Donc, c'est du cinéma qui fait lien social. Il est certain que Pagnol a su jouer de ressort vraiment puissant de la dramaturgie. Il a su les réactiver, en tout cas. S'il était resté homme de théâtre... Bon, voilà, il aurait peut-être fini par faire un théâtre un peu ringard. D'ailleurs, ses dernières pièces, Judas et Fabien, n'ont pas marqué les mémoires. Mais le cinéma lui a permis de donner une nouvelle vigueur et de réactiver encore une fois cette nostalgie du lien social et ce mythe de l'innocence perdue qui sont vraiment au cœur de son univers.
Un autre de ses défenseurs parmi les cinéastes, c'est Maurice Pialat. Il était interrogé par François-Régis Bastide le 28 mai 1972 et il en a parlé. On l'écoute.
Moi, je ne cache pas que j'aime beaucoup Pagnol. Enfin, surtout depuis peu. Oui. Je l'ai sans doute beaucoup aimé toujours, mais j'avais été influencé par le... Vous savez comment on parlait de Pagnol avant-guerre, et puis même il n'y a pas tellement longtemps. Oui. Et d'autres continuent encore dire. Et je l'ai sans doute toujours beaucoup aimé, même en m'en défendant. Et maintenant, je l'aime vraiment beaucoup. Et lui, je crois qu'il disait qu'il ne comprenait pas quand Corda et Allégret, je crois, dans l'ordre chronologique, ont mis en scène ces deux premiers films, que l'on découpe ces scènes. Et quand lui a fait César, que j'ai la chance d'avoir vu il n'y a pas tellement longtemps, Je pense que c'est le meilleur de la trilogie, même si ce n'est pas la meilleure pièce. Parce que, d'ailleurs, ce n'était pas une pièce, César, je crois.
Il l'a d'abord écrit en film.
Et parce que les scènes, effectivement, sont longues. Il laisse jouer le comédien et moi j'aime beaucoup ça.
Noël Herbe, ce document nous apporte-t-il un élément nouveau ?
Ah bah oui, ça m'étonne pas du tout. Et je sais d'ailleurs que Pialat adorait Pagnol. Il y a une scène dans À nos amours où je crois c'est le père, joué par Pialat justement, dit à son fils « Ah bah t'avais beaucoup de talent d'écrivain, on t'appelait le petit Pagnol », etc. Donc pour lui, c'est vraiment une référence. Ce qui est original, encore une fois, parce que même dans les années 80, dire ça, c'était s'exposer à être dénigré par les intellectuels professionnels. Donc Pialat est à la fois courageux en disant ça et très cohérent par rapport au cinéma qu'il a commencé à faire avec La Maison des Bois, avec Nous ne vieillirons pas ensemble, etc., qui sont en effet des films à la fois de la recherche du lien familial perdu ou du lien conjugal perdu à travers l'écriture cinématographique et notamment l'écriture du plan séquence et la direction d'acteur en continuité. Maintenant, bon, il y a quand même une grande différence, c'est que bon, il y a chez Pialat une cruauté qui va jusqu'à la mort, jusqu'à la souffrance et la destruction, alors que chez Pagnol, il y a toujours cette foi en la vie et cette croyance que tout est possible et que tout va recommencer.
Allez, une dernière critique que l'on entend parfois à son sujet, c'est qu'il donnerait trop de place au récit et qu'il copierait en cela le cinéma américain. Il en était question dans l'émission Tribune de Paris du 9 août 1946. Dans cette archive, le critique Georges Charansol, encore lui, fait référence à Pagnol. Il est autour de la table avec le réalisateur Roger Lénart et Denis Marion.
Je pense que Marion et Lénart voient un peu trop les films américains de leur point de vue de technicien. Vous nous ramenez, mes chers amis, exactement à Marcel Pagnol, c'est-à-dire exactement à ce qu'il y a de plus haïssable dans le cinéma, c'est-à-dire une soumission totale, absolue et sans aucune espèce de compromission au sujet. Or, je reconnais parfaitement que Pagnol est un très grand bonhomme. Il a fait un film qui s'appelle Angèle, qui est un très beau film. Il a fait La femme du boulanger, qui n'est pas mal, mais il a fait aussi, hélas, César, qui est une chose que je ne qualifierais pas, et quelques autres, Merlus en particulier. Et si c'est vraiment à ça que vous voulez nous ramener, sous prétexte de soumettre entièrement la technique en profondeur, en nous expliquant des tas d'histoires, qu'on ne panoramique plus, qu'on a supprimé le travelling, etc., moi je continue à penser que le metteur en scène est l'auteur du film.
Oui. Alors écoutez, si vous voulez me permettre, Roger Lénart et Denis Marion lèvent la main avec enthousiasme. Denis Marion.
Je suis en effet absolument convaincu que le cinéma doit se soumettre sa technique à son sujet. Et ce qui me paraît différencier complètement cet effort des Américains dans ce sens avec celui de Pagnol, c'est que Pagnol soumettait ses sujets à une technique qui n'était pas celle du cinéma, qui était celle du théâtre. Et que précisément, les Wyler, les John Ford, Otto Preminger, il s'agit d'un nouveau venu, mais Billy Wilder, plus important, qui a réalisé Assurance sur la mort, soumettent leur technique de cinéma au sujet et enrichissent leur technique de cinéma en faisant des emprunts à des techniques comme celle du théâtre, comme celle du roman, mais en ne prenant au théâtre et au roman que ce qui est assimilable au cinéma.
Vous avez déjà parlé du rapport théâtre-cinéma chez Pagnol, Noël Herp. Quel est le rapport de Pagnol avec le cinéma américain ?
Le cinéma américain, je ne suis pas sûr qu'il en ait été un grand consommateur. Au fond, on a le sentiment que Pagnol puise quand même dans un fond essentiellement français. Il est certain qu'il a été remaké à Hollywood, puisqu'on a refait Marius assez rapidement. Il y a eu une version, je pense, dès le début des années 30 de Marius aux États-Unis. Il y a eu un Topaz dès 1932 avec John Barrymore et Myrna Loy aux États-Unis. Donc c'est des films qui ont été refaits à Hollywood. J'ai le sentiment que l'écriture cinématographique qu'invente Pagnol, elle est quand même proprement française, dans justement ce rapport au réalisme, ce rapport à la durée, et en même temps ce rapport à la parole, cette manière d'assumer la parole dans sa durée. Il n'est pas étonnant que Charansol s'inscrive en faux contre cette conception, puisque Charansol est plutôt un défenseur du cinéma muet. Hein. Ces deux grands cinéastes, il me l'a dit lui-même un jour où j'ai eu l'honneur de le rencontrer, étaient René Clair et Robert Bresson, qui étaient deux très grands cinéastes, mais plutôt avec un ADN de cinéma muet, qui étaient plutôt des cinéastes de l'image avant tout. Pagnol, il est certain, on l'a dit et redit, c'est d'abord un cinéaste de la parole. Mais c'est très injuste, par exemple, quand Charansol dit cet épouvantable Merlus. Merlus est un film de parole, certes, où il y a de l'éloquence, comme il y en a toujours chez Pagnol, parce qu'il y a aussi ce thème du corps enseignant, de l'école, etc., qui sont des thèmes très importants dans son œuvre, depuis La gloire de mon père jusqu'à Topaz, en passant par Merlus, justement. Là, il ne s'agit pas d'un enseignant, il s'agit d'un pion, mais d'un pion qui s'avère être un Père Noël. On retrouve l'influence de Dickens, mais il y a aussi des magnifiques plans sur les lycéens, sur la vie de collège, avec tout ce côté un peu poisseux, un peu crapoteux, avec les cigarettes qu'on va fumer en douce dans les chiottes, etc. Et tout ce climat des collèges d'avant-guerre qui est admirablement restitué. Encore une fois, j'ai l'impression que des gens comme Charansol s'en remettent aux pétitions de principe de Pagnol, qui étaient volontairement provocantes et excessives, quand il disait qu'il s'en foutait de l'image et que seul importait la parole. En fait, le cinéma de Pagnol est un cinéma peut-être encore plus visuel que celui de ses collègues. Mais l'image arrive par effraction au moment où on ne s'y attend pas forcément et elle révèle des beautés insoupçonnées.
Nous terminons cette séquence sur les critiques et soutiens de Pagnol par une archive un peu décalée. C'est Georges Brassens qui se trouve des affinités avec le cinéaste écrivain dans son utilisation du langage.
Dans la vie, je ne suis pas du tout un grossier personnage. Et je m'exprime dans une langue, sinon châtiée, du moins à peu près expurgée, quoi. J'emploie les trois gros mots courants que tout le monde emploie en se coinçant les doigts dans une porte ou en voyant un chauffeur qui vous passe devant le nez, quoi. À part ces expressions-là, les autres, je les ai un peu recherchées dans mes chansons. Mais il faut dire qu'il y a assez longtemps que je fais des chansons et à l'origine, je les ai faites pour amuser des copains. Et à 17-18 ans, cet âge-là, on a l'esprit de salle de garde et on s'amuse évidemment à choquer le bourgeois. Et moi, j'ai tellement pris l'habitude de faire ça que j'ai continué longtemps après.
Est-ce que vous ne pensez pas que parmi les académiciens qui vous ont attribué ce prix de poésie, beaucoup ne connaissaient pas l'usage de ces gros mots et qu'ils seraient peut-être surpris de les entendre?
Ah, vous savez, Marcel Pagnol, lui, les connaît très bien parce que c'est un de ceux, justement, qui tenait absolument à ce que j'obtins, ça, puisqu'on parle à l'Académie française, en employant l'imparfait du subjonctif. J'obtins le prix. Il les emploie, lui, avec beaucoup de bonheur. En somme, j'essaie de faire, si vous voulez, un peu comme Pagnol. Quand Pagnol fait dire un de ses personnages, par exemple, dans sa trilogie, lui fait dire un gros mot comme merde ou autre, il le lui fait dire à bon escient, c'est-à-dire on ne peut pas dire autre chose si on l'enlève. Et moi, j'essaie de faire ça dans certaines de mes chansons, comme dans Marinette, le fameux mot de trois lettres, là, il est impossible de l'enlever. C'est l'effet de la chanson, et je trouve que ce personnage de Marinette, là, qui dit de quoi il avait l'air avec son petit bouquet, son petit vélo, et puis sa petite couronne et son petit pistolet, n'est pas du tout choquant. Au contraire, je le trouve attendrissant. Je trouve qu'il y a là-dedans, justement, une espèce de... Ce pauvre type qui arrive toujours après, toujours quand le train est parti, peut dire ce mot sans... Il en devient attendrissant, si vous voulez, en disant ce gros mot. S'il disait un autre mot, il serait moins attendrissant, vous voyez. Ça crée une espèce de choc, une espèce de contraste qui me semble indispensable.
« Et avec les copains, on dit parfois des gros mots et on a aussi le cœur gros quand ils viennent à disparaître. Ce sera le cas des amis de Pagnol au moment de sa mort le 18 avril 1974 à Paris. Quelle réaction au moment de son décès, nous le verrons dans le dernier épisode. Il sera également en question de ce qui rend les histoires de Pagnol si touchantes.